d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Toujours de la pluie autour de la Méditerranée.
Et oui, la dépression Blast n'en finit pas de tournicoter, renvoie des averses orageuses en Corse et des nuages et des pluies de la Côte d'Azur au Golfe du Lion. Et puis comme hier, près de la Manche, le ciel va rester bien gris avec des bruines. Mais cet après-midi, le soleil sera de retour de la Bretagne à la Normandie. Et puis comme les jours précédents, on retrouve aussi des brouillards très denses au nord de la Loire qui vont se dissiper au fil des heures. Et les nuages bas du sud-ouest au massif central de ce matin laisseront place au soleil en journée. Mais les grisailles seront tenaces de l'Alsace au Val-de-Saône.
Mercure très contrasté.
Ah oui, déjà ce matin, Nicolas, entre les moins 4 relevés sur les Ardennes, les 0 à Paris, alors qu'il fait 18 à Fréjus, et idem pour cet après-midi, grand écart entre les 8 attendus à Metz, 10 à Paris et 20 à Marseille et Ajaccio.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur France Inter, 7h30. Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une, la prison à perpétuité pour le meurtrier de Mireille Knoll. La cour d'assises reconnaît un crime antisémite. Soulagement des proches de cette vieille dame juive tuée en 2018 à Paris, vous entendrez son fils. Ça y est, ça se bouscule de nouveau aux portes des centres de vaccination. Conséquence des annonces présidentielles d'avant-hier, bien sûr. Nous serons dans les Bouches-du-Rhône. Au sommaire aussi, un premier brouillon d'accord qui ne fait pas l'unanimité à la COP26, Éric Ciotti face aux jeunes républicains à 20 jours du congrès d'investiture à droite et l'Italie qui veut en finir avec la pagaille sur ses routes.
Au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui l'eurodéputé Bernard Guetta, vice-président de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen.
France Inter.
3 ans et demi après la mort de Mireille Knoll, le verdict est tombé hier soir.
Depuis le début, ils étaient deux à se rejeter la responsabilité du meurtre de l'octogénaire juive tuée chez elle à Paris en mars 2018. Mais c'est bien Yassine Mioub qui est reconnu seul coupable de ce crime. Crime au caractère antisémite, précise bien la cour. Il est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son co-accusé, Alex Karim Bacus, écope lui de 15 ans de prison pour vol aggravé. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
La peine maximale donc pour Yassine Mioub, perpétuité avec 22 ans de sûreté.
Il y a chez Yassine Mioub une haine sourde, une rancœur contre Mireille Knoll et un contexte global d'antisémitisme. Voilà les mots du président quand la cour le condamne pour avoir tué la vieille dame, notamment parce qu'elle était juive et alors qu'elle était vulnérable, elle avait 85 ans, elle souffrait de la maladie de Parkinson. Alan est le fils aîné de Mireille Knoll. Il a du mal à retenir ses larmes. Il prend la parole avec son fils Alexandre.
J'attendais ce verdict depuis longtemps. Il est à la hauteur de mes espérances et je vais peut-être pouvoir enfin faire mon deuil.
On a maintenant la certitude que nos familles, notre société sera protégée de ces gens-là le plus longtemps possible. Et c'était une des grandes priorités.
Si la cour ne désigne qu'un meurtrier, Yassine Mioub, elle reproche à Alex Karim Bacus d'avoir assisté au meurtre sans vous désolidariser, résume le président.
Karim Bacus qui est donc lui condamné pour vol avec circonstances aggravantes.
Oui, notamment celle d'avoir volé Mireille Knoll alors qu'elle était déjà morte. La cour condamne aussi une troisième personne, celle qui a accueilli les deux hommes juste après le meurtre. La mère de Yassine Mioub, une voisine de Mireille Knoll, elle écope de 3 ans de prison, dont un en ferme pour destruction de preuves.
Mathilde Vinceneux au procès de l'affaire Knoll à Paris. Merci Mathilde. Garde à vue prolongée pour Aminata Diallo, la joueuse du Paris Saint-Germain. Les enquêteurs cherchent à savoir si elle est impliquée dans l'agression de l'une de ses coéquipières, Keira Amraoui, frappée à coups de barre de fer la semaine dernière. On apprend ce matin qu'un proche d'Aminata Diallo vient d'être extrait de sa prison à Lyon pour être entendu dans ce dossier.
La remontée des cas de Covid en France, 7h33, commence à ressembler à un début de cinquième vague.
Ce sont les mots d'Olivier Véran hier soir sur TF1, le ministre de la Santé qui mise sur la vaccination pour éviter un nouvel engorgement à l'hôpital. En tout cas, les annonces présidentielles sur la dose de rappel pour les plus de 65 ans relancent une campagne jusque-là un peu molle. Les centres de vaccination font à nouveau le plein, comme à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Fred Chapuis.
Ici, le flux est ininterrompu, avec ou sans rendez-vous.
On est là.
Je vais vous prendre. Par contre, il faudra patienter un petit moment.
L'annonce du président joue comme un catalyseur, un accélérateur. Marie-Ange est coordinatrice du centre de vaccination de Gardanne.
Ça n'arrête pas. Entre aujourd'hui et jusqu'au 19 novembre, j'ai pris 80 rendez-vous sur des troisièmes doses. Un effet Macron, comme toutes les annonces.
L'activité du centre a plus que doublé. 350 vaccinations par jour contre 150. La validité du pass sanitaire conditionné à la troisième dose a fait mouche.
Soulagé de surtout ne plus être embêté par le pass, je passe de partout.
Je suis retraité, je vais souvent au cinéma, au théâtre, et puis j'ai aucune appréhension par rapport à la vaccination.
Yvan Ali-Chérif est l'un des médecins qui vaccine dans ce centre. Il veut rassurer les plus hésitants.
Les effets secondaires sont souvent beaucoup moindres, étant donné que la troisième est espacée de 6 mois par rapport à la seconde, alors qu'il n'y avait que 3 semaines entre les 2 premières. Ça se passe très bien, la troisième se passe très bien.
Et pour faire face à la demande, le centre de vaccination, qui devait fermer le 10 décembre, restera finalement ouvert au moins jusqu'à la fin de l'année.
À Gardanne, le reportage de France Bleu Provence. En ce 11 novembre, les commémorations de l'armistice de 1918 prennent un relief tout particulier avec l'inhumation du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain, décédé le 12 octobre. 2 cérémonies à Paris, d'abord ce matin sous l'Arc de Triomphe, puis le convoi se dirigera ensuite vers le Mont Valérien où ce grand résistant sera inhumé cet après-midi dans la crypte du mémorial. À peine sortis de leur premier débat, les candidats à l'investiture LR pour la présidentielle préparent déjà le prochain, ce sera dimanche, pas de week-end prolongé donc pour les 5 concurrents. Anne Souhaitement, vous avez suivi Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, défenseur d'une ligne très droitière. Il était hier soir devant les jeunes républicains, plutôt séduit.
Les rangs sont clairsemés, mais les convaincus sont là.
Moi, c'est clairement Ciotti.
Les indécis aussi, séduits par une ligne dure. Éric Ciotti voterait Zemmour en cas de second tour face à Macron.
J'aime sa fermeté. Aujourd'hui, on en a besoin.
Il assume ses propos, il a des idées claires. Ça, on ne peut pas lui enlever.
Gabriel, Emmanuel, Guillaume, tous apprécient le franc-parler d'Éric Ciotti qui en a fait une image de marque.
Moi, je n'ai pas de tabou. Notre famille politique, elle s'est laissée progressivement anesthésier parce que le regard médiatique nous a interdit de parler de certains sujets. Eh bien moi, ce n'est pas le regard médiatique qui m'interdira de parler de certains sujets.
Grand remplacement, priorité nationale, Éric Ciotti braconne sans complexe sur les terres de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, ce qui ne dérange pas Pauline.
Ces termes-là, ils ne sont pas forcément attribués qu'à l'extrême droite, ils ne leur appartiennent pas. C'est des thèmes qui sont nationaux et qui sont aujourd'hui pour moi d'actualité.
Une proximité assumée avec les idées d'extrême droite saluée par Emmanuel.
C'est le seul candidat des Républicains qui a parlé du grand remplacement et qui assume ces mots. Donc je trouve ça très bien, il n'y a pas de langue de bois avec Éric Ciotti, mais aujourd'hui je ne suis pas convaincue qu'il pourra gagner le congrès, donc je pense que je vais plutôt faire un vote utile.
Le vote utile peut être le plus grand risque pour Éric Ciotti, même si dans le parti plusieurs le disent, tout est possible.
Anne Souhaitement pour Inter. Des milliers de migrants toujours massés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, mais aussi la Lituanie. Cette crise migratoire et géopolitique est au menu d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Les autorités polonaises qualifient, elles, l'attitude du régime biélorusse de terrorisme d'État. À Glasgow, Chine et États-Unis surprennent en annonçant un pacte de coopération contre le changement climatique. Cela va peut-être redonner de l'espoir aux négociateurs de la COP26, car concernant l'accord final, les discussions sont loin d'être bouclées. À 24 heures de la fin, la première version du texte ne fait pas l'unanimité, Sandy Dauphin.
Ce premier jet insiste sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, note avec une vive inquiétude qu'on n'y est pas et appelle à plus d'action dans cette décennie cruciale. Le texte reconnaît aussi que les pays en développement ont des besoins financiers croissants, confrontés aux impacts du changement climatique et à un endettement lié au Covid. Mohamed Hadou est kényan, il dirige un club de réflexion Power Shift Africa. Pour lui, le texte final doit être plus ambitieux.
Il n'y a pas de solidarité, pas assez de coopération internationale dans l'avancement actuel du texte. Les prochains jours vont être les jours les plus importants à Glasgow pour tenter de renforcer la déclaration finale pour que nous puissions quitter Glasgow sur un succès.
Mais certains États vont trouver d'autres paragraphes du texte trop ambitieux, notamment quand il appelle les pays à accélérer la sortie du charbon et la fin des subventions aux énergies fossiles. Lola Vallejo est directrice du programme Climat à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
On peut s'attendre à ce que beaucoup de pays s'élèvent contre l'inclusion explicite de la sortie des fossiles dans ce texte, notamment des pays historiquement bloquants comme l'Arabie Saoudite, mais aussi d'autres, chez qui la sortie du charbon commence à être envisagée, mais le pétrole et le gaz, c'est encore plus difficile d'envisager ça politiquement.
La présidence britannique de la COP26 doit proposer une nouvelle version du texte aujourd'hui.
110 dauphins à Glasgow. Ils étaient 23 sur la ligne de départ. C'est finalement Mathias Vichra qui emporte le siège de directeur de Sciences Po Paris. Les deux instances internes de l'école l'ont choisi à une forte majorité, 8 mois après la démission de Frédéric Mion dans la foulée de l'affaire Duhamel. Mathias Vichra, qui n'a pas vraiment un profil universitaire. Sonia Princey.
Il reste une dernière étape. Le nom de Mathias Vichra sera transmis au président de la République qui signera le décret de sa nomination. Un nom qu'Emmanuel Macron connaît bien justement, puisque Mathias Vichra était un ancien camarade de promotion de l'ENA du président. Ce haut fonctionnaire de 43 ans a un parcours éclectique, marqué à gauche. Il commence sa carrière comme sous-préfet. Il passe ensuite par la mairie de Paris, comme directeur de cabinet de Bertrand Delanoë, puis d'Anne Hidalgo. Avant de rejoindre le monde de l'entreprise, il devient directeur général adjoint de la SNCF et plus récemment secrétaire général du groupe Danone qu'il vient de quitter. Mathias Vichra faisait figure de favori même s'il n'a aucune expérience dans l'enseignement supérieur. Dans son projet, il a d'ailleurs promis de s'entourer d'un numéro 2 de formation académique. Il veut aussi augmenter le nombre d'enseignants permanents à Sciences Po. Actuellement, sur 4000 professeurs, 3800 sont vacataires et 200 sont des enseignants titulaires. Le nouveau directeur souhaite également associer davantage les étudiants au projet de transformation de l'école. Il aura surtout pour première mission d'apaiser le climat et de faire oublier les turbulences de ces derniers mois.
Sonia Princey pour les précisions.
Et on part en Italie, Alexis, où les automobilistes vont devoir se discipliner.
Oui, désolé pour le cliché, mais nos amis italiens ne sont pas les plus sages au volant. Eh bien, qu'à cela ne tienne, le pays vient d'adopter un nouveau code de la route plus sévère qui s'attaque aux voitures comme aux trottinettes. Bruce de Galzin a tenté de vérifier si les règles étaient déjà respectées dans les rues de Rome.
Rome en pleine journée, beaucoup de voitures, de touristes, de trottinettes aussi, dangereuses, égarées n'importe comment, selon Patrizio, chauffeur de taxi.
Voir toutes ces trottinettes n'importe où, ça ne donne pas une bonne image de la ville. Elles roulent sur les trottoirs, elles se jettent sur la route. Au dernier moment, il y a eu des tragédies et même des morts.
Alors désormais, les trottoirs sont interdits, la vitesse est limitée. Il faut même envoyer une photo pour prouver que l'on est bien garé. Les piétons deviennent, eux, prioritaires, même s'ils ne sont pas engagés sur un passage. Impossible, selon Irène et Flavio, belges d'origine italienne.
L'info, à mon avis, n'est pas passée chez tout le monde, parce qu'il ne s'arrête pas. Limite, il klaxonne pour te dire, oui, bouge-toi de là.
On est belge, mais on est italien aussi, et on voit la différence quand on vient ici, on se limite une servarrière, c'est inexistant.
Pour les automobilistes, l'amende sera triplée si l'on est pris téléphone au volant, doublée si l'on jette des ordures par la fenêtre. Gianfranco, 50 ans, a des doutes sur le respect des règles.
J'espère que ces nouvelles règles seront appliquées, mais vous savez très bien comment ça marche en Italie. Ils font des lois, mais elles ne s'appliquent pas.
Quant à ceux qui perçoivent les amendes, les communes, elles devront publier chaque année les sommes récupérées et expliquer ce qu'elles en ont fait. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Oui, voilà, ce n'est pas gagné encore en Italie, mais c'est peut-être un peu tôt pour vérifier si les règles sont respectées.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.